Good Evening Business, l'invité.
Il est 18h15 sur BFM Business, on va parler de l'emploi des jeunes, notamment des jeunes des quartiers prioritaires. Vaste, vaste sujet.
Vaste sujet, en effet. Et on en parle ce soir avec Saïd Amouche. Bonsoir Saïd Amouche.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de la Fondation Mosaïque, qui est la première fondation reconnue d'utilité publique, qui est propriétaire d'une entreprise à mission et qui favorise en fait l'inclusion et la diversité, c'est ça?
Absolument.
Et alors, vous allez nous expliquer ce qu'il se passe à Bercy le 29 novembre, puisque vous avez créé un sommet, donc c'est la deuxième édition, c'est ça?
C'est la seconde édition du sommet de l'inclusion économique, absolument.
Alors, qu'est-ce qui va s'y passer, qu'est-ce qui va s'y dire et pour quel objectif?
Alors, en fait, ce sommet s'inscrit dans une logique qui s'est installée depuis une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, on s'est dit, pour pouvoir faire face au chômage dans les quartiers populaires, en banlieue, oui, il faut à un moment donné bousculer les lignes et puis surtout revendiquer qu'en banlieue, il y a des compétences. Il y a plein de jeunes, en fait, qui souhaitent être reconnus par leurs aptitudes professionnelles, leur motivation professionnelle. Il y a plein de gens qui sont diplômés et qui ont des talents. Oui. Oui. Mais on ne sait pas les détecter dans les radars.
Mais un taux de chômage, rappelons-le, par rapport à l'ensemble de la France métropolitaine, deux à trois fois plus élevé.
Enfin, absolument, je vous laisse... on a un énorme paradoxe qui vient d'être confirmé encore une fois en juillet dernier par la Cour des comptes, qui déclare que malgré que le taux de chômage des jeunes est baissé, on a un taux de chômage qui reste 2,7 fois supérieur dans ces fameux territoires politiques de la ville. Et donc, nous, on pense que c'est important d'accompagner la compréhension de qui sont ces jeunes et comment on fait pour les détecter auprès des recruteurs. Ça a marché, on a placé plus de 15 000 jeunes depuis 2007 quand on a créé le cabinet Mosaïque RH. Et donc nous aujourd'hui on pense que ce qui est important aujourd'hui c'est d'avoir plus d'impact, de changer le système, et parce qu'on peut changer le système, il nous faut des nouveaux outils, des nouveaux acteurs à mobiliser. Et on a décidé de créer une fondation qui est une fondation qui va à un moment donné travailler sur la prise de conscience et la volonté en fait d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques mais aussi les décideurs politique sur ces questions-là. Et petit à petit, cette réflexion nous pousse en fait à comprendre que la meilleure manière pour pouvoir mobiliser, c'est de créer un sommet. Oui. On parle beaucoup en fait de politique sociale quand on s'adresse sur ces sujets en matière de quartier. Nous, on pense que c'est d'abord un sujet économique. Et donc, ça passe par la
évidemment,
prise
c'est
en compte des différentes opportunités.
Oui, bien sûr. Quelle est aujourd'hui en France la première discrimination? Est-ce que c'est une discrimination plutôt sociale, de genre? Est-ce que c'est lié au handicap?
Alors, le premier facteur de discriminant, c'est l'âge.
C'est l'âge.
C'est clair et net.
Aujourd'hui encore.
Absolument. Et on considère d'ailleurs, sur la dernière étude du Bureau international du travail, qu'à partir de 45 ans, on est considéré comme un senior et on a 7 fois moins de chances qu'à compétences égales d'obtenir un job. Donc ça, c'est le premier critère.
Et je précise que c'est une double peine pour les femmes seniors qui ont de plus en plus de difficultés, en tout cas, à retrouver un emploi par rapport à un homme une fois qu'elles sont sorties du circuit.
Vous avez raison, Audrey. Il y a un phénomène cumulatif qui fait que lorsque, effectivement, on est une femme, la peine est plus lourde, puisque du coup, les occasions, les opportunités et les biais discriminants sont plus forts.
Alors, comment est-ce qu'on y répond à ça? Donc, ça passe par la législation.
Nous, on joue la carte à fond. C'est une carte qui marche systématiquement. C'est donner envie, en fait. C'est donner envie de s'engager sur un projet. Et nous, notre projet, c'est le projet de l'inclusion économique. On sait très bien qu'une société qui n'est pas capable de reconnaître ses talents, c'est une société qui va exclure. Oui. Et donc, on mise sur l'inclusion. On a, pendant des années, parlé d'intégration dans les quartiers populaires. Mais on pense que cette génération, elle est largement intégrée. Elle a besoin aujourd'hui de revendiquer sa réussite par ses qualités professionnelles. C'est possible de le faire quand on est un entrepreneur. C'est possible de le faire lorsqu'on est un collaborateur, un salarié. Mais on a un certain nombre de barrages qui bloquent les situations.
Ce qui veut dire que tout ce qu'on a fait depuis 30 ans, on a souvent parlé à leur zone franche, quartier prioritaire, où on engloutit des milliards, finalement, vous dites on a fait fausse route, voilà. On a fait qu'arroser, finalement.
Non, c'est une erreur de penser ça. Alors, d'abord.
Mais c'était ça pendant 30 ans, ça veut dire.
On est souvent, quand on annonce ces gros chiffres, c'est des chiffres qui correspondent à une politique de rattrapage. Oui. Il faut se rendre compte qu'un collégien, aujourd'hui, quand il termine son cursus, on estime aujourd'hui que lorsqu'il habite en Seine-Saint-Denis, il a perdu une année de scolarité à cause de l'absence des profs. Et donc, du coup, quand on remet de l'argent sur ces fameuses politique éducative d'excellence, ça ne fait que réparer, ça ne fait que restaurer une égalité qui a complètement disparu. Donc, faut pas s'étonner qu'on a des dérapages, qu'on ait des catastrophes à moyen terme. Oui. Ensuite, il faut aussi se rappeler que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de partir des opportunités. Mmh. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui peinent à recruter. Et nous, on considère que si on était capable de s'intéresser à ces recruteurs, à ces secteurs d'activité qui sont en difficulté, on est capable de construire des solutions.
Et alors, justement, votre point de vue sur ce concept que l'on appelle la grande démission, c'est quoi ? Parce que aujourd'hui, on a des secteurs qui sont un peu sclérosés. Par exemple, je pense à l'alimentation, enfin à la restauration en tout cas, où il y a 100 000 demandeurs d'emploi et en face, on a 300 000 offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Alors, est-ce que les gens vraiment démissionnent parce qu'ils sont dans cette quête de sens ou simplement parce qu'ils veulent changer de secteur et être mieux rémunérés ?
Alors, il y a tout un travail qui a été fait au Conseil économique et social. Il y a un rapport qui a été établi en fait sur les métiers en tension. Mmh. On explique qu'une partie, en fait, il y a une partie des réponses qui sont présentées. La grande démission, elle est essentiellement en fait portée par des conditions de travail, des secteurs d'activité qui sont méconnus, un certain nombre de préjugés qui sont sur place, un mécanisme d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle qui n'est pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, on a un gros problème pour pouvoir promouvoir ces secteurs d'activité, ces métiers. Et donc, on a des difficultés pour pouvoir organiser la rencontre, l'offre et la demande. Et puis, on a véritablement, on est dans une société qui est en pleine transition. Et donc, le sens au travail, c'est une vraie question. Ouais. L'équilibre vie professionnelle, vie privée est aujourd'hui un sujet qu'il faut plus travailler. Et donc, c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille davantage sur ces questions-là d'une manière beaucoup plus ouverte.
Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un énorme déni de réalité, notamment de la part des entreprises, puisque quand on les interroge, les entreprises, en tout cas en France, à 72%, elles disent qu'elles sont dans une démarche inclusive, et puis de l'autre côté, quand on interroge les salariés, ils sont 75% à dire qu'ils sont victimes ou qu'ils ont été victimes de discrimination.
Alors, en fait, il faut savoir, il faut partir d'une réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces questions-là, mais qui ne savent pas prendre le sujet. Oui. Celles qui s'intéressent et qui agissent, elles sont minoritaires. Mmh. D'ailleurs, c'est une partie d'entre elles. On a 70 entreprises qui nous rejoignent au sommet et qui nous rejoignent d'abord pour comprendre, mais ensuite pour agir. Et elles vont repartir avec une série d'outils, une série de solutions pragmatiques qu'on va leur proposer. 70 entreprises, on est loin d'une représentation idéale, en fait, de tous les recruteurs en France. Donc, il reste du travail. On a évalué à peu près à 5% de la population qui sera touchée le soir du sommet grâce à ce travail-là. Quand on cumule, en fait, l'ensemble des collaborateurs des 70 boîtes, c'est 5% des collaborateurs. Donc, on ne touchera pas demain les 20 millions de collaborateurs. En revanche, ça donne un cap, ça donne une voie pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, capitalisons sur ces pionniers pour pouvoir montrer, en fait, les différentes clés sur lesquelles il faut.
Et alors, une dernière question, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Force est de constater que c'est quand même sous l'impulsion des pouvoirs publics que se sont développées, justement, les politiques d'inclusion. Est-ce que, durant ce sommet, un de vos objectifs, ce n'est pas justement de demander au pouvoir public plus de mesures coercitives ou plus de législation sur le sujet?
Alors, vous avez raison, on a la chance en fait d'avoir 6 ministres sur ce sommet de l'inclusion économique, une trentaine de directeurs CEO qui seront présents. On veut d'abord leur montrer en fait que les solutions existent. On a créé un fonds par exemple pour les entrepreneurs qui est doté de 2 millions d'euros et qui va permettre en fait à des entrepreneurs de développer leur boîte. D'accord. Beaucoup plus facilement et avoir accès au financement. On va avoir plus de 4000 postes qui vont être ouverts. Donc les solutions existent. Il faut maintenant investir sur un système global pour pouvoir changer la solution, pour pouvoir changer la situation.
Oui.
Avec des solutions, bien sûr, avec des solutions. Ça se passe donc le 29 novembre prochain à Paris.
À Bercy.
Ministère économique. Sommet de l'inclusion économique. Merci beaucoup, Saïd, d'être passé nous voir.
Merci.
Saïd Amouche, entrepreneur, président fondateur de Mosaïque RH, qui organise cet événement donc mardi prochain à Bercy. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business.